C'est toujours un honneur de bénir Dieu avec une partie de son peuple. On n'entend pas bien? Ah, aussi j'ai pas parlé fort. C'est toujours un honneur de bénir Dieu avec, avec son peuple, avec une partie de son peuple. Ça, pour nous, c'est toujours un... Oui, Anne-Marie et moi, nous ne nous lassons pas de découvrir une église et d'aimer une église. Probablement parce que c'est ce que le Seigneur fait. Donc, au moment d'un téléphone avec Mathieu, j'ai demandé s'il y avait un thème que, voilà, que vous aimeriez que... qu'on aborde. Il m'a dit, mais comme tu es conduit, et ces temps-ci, je suis en train de préparer un article sur la grâce, et Mathieu m'a dit aussi au téléphone, on se sent poussé à parler des fondamentaux. Alors, je vous propose une vue d'ensemble de la grâce. D'accord? Donc, ça ne sera pas une prédication pour insister et appuyer sur un aspect, un point, mais une vue d'ensemble. À vrai dire, la grâce, c'est le sujet le plus évident, peut-être le plus facile dans la vie chrétienne. Quoi, le plus facile? Mais celui aussi avec lequel on a du mal, parce que quand on a bien compris la grâce, à un moment, on s'est dit, bon, et alors maintenant, où je mets l'obéissance? Et quelqu'un qui a bien compris que c'est vital d'obéir à Dieu, et il se dit, où je mets la grâce? Est-ce que j'y crois? Est-ce que je m'en nourris? Est-ce que je vis par la grâce de Dieu? Et puis, sans parler de... et où je situe la loi par rapport à la grâce? Etc. Alors, en fait, je vous propose une petite comparaison technique, j'allais dire. Ça nous est... arriver à tous de vouloir visser quelque chose, hein, de mettre un écrou au bout d'un boulon ou simplement le bouchon d'un thermos, ceux qui ont un pas de vis là, hein. Et puis ça part mal, enfin je ne sais pas, vous comprenez ce que je veux dire? Ça ne s'apprend pas. Alors en fait, comment il faut faire? Eh bien, en fait, le fabricant, il a fait les choses de façon qu'il y ait un début au pas de vis qu'il reçoit et un début au pas de vis qui est à l'intérieur de l'écrou ou du bouchon. OK. Alors, en fait, il n'y a qu'une chose à faire pour que ça prenne correctement, c'est de visser de le mettre et de visser à l'envers jusqu'au premier clic. On visse à l'envers et à un moment, les deux débuts de pas de vis se retrouvent, clac, et là, ça part. Donc, si toutefois vous n'aurez pas tiré d'autres bénéfices de ma prédication, il y a toujours celui-là. On s'énervera moins sur les écrous. Voilà. Et c'est ce que je vous propose de faire aussi avec... en fait, c'est comme ça qu'il faut faire avec la parole de Dieu, avec la vérité. Il faut revenir au début. Si vous voulez, il faut tourner en arrière jusqu'au premier clic. Et le premier clic, en général, c'est la première mention de la chose sur laquelle je réfléchis, aujourd'hui, mettons, la grâce. À quel endroit apparaît le mot pour la première fois? Et, si vous voulez, on repart au début. Alors, donc c'est dans Genèse au chapitre 6, et c'est le verset... Alors, le verset 7, au verset 7, Dieu dit, « J'effacerai l'homme de la surface du sol. » Ça, c'est le verset 7. Et le verset 8 dit « Et Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. » Voilà. La première chose qui est dite de la grâce, ben, c'est qu'elle est en l'Éternel, qu'elle est dans ses yeux, et que c'est en lui qu'on la trouve. Et... aussi, ce verset 8 clame, proclame d'où vient le salut. Le verset 7 clame la perdition et ce verset 8 dit d'où vient le salut? Eh bien, de l'Éternel, des yeux de l'Éternel. Donc je vous propose, si vous voulez, en gros trois parties dans le message. Une première pour survoler la grâce éternelle du Dieu plein de grâce. Une deuxième pour insister sur qu'est-ce que ça veut dire la grâce qui est en Jésus-Christ. Et une troisième, si vous voulez, s'il reste du temps, si vous n'êtes pas fatigué, pour réfléchir un petit peu sur la loi. Vu l'enthousiasme indescriptible que je viens de déclencher, voilà. La loi est de Dieu, et normalement, si je m'arrête ne serait-ce que 5 minutes sur elle, elle devrait me faire aimer mieux la grâce de Dieu, puisqu'elle a été donnée pour nous conduire à Christ. Alors, trouver grâce aux yeux de Dieu. Une petite info, on trouve le mot grâce dans l'Ancien Testament presque autant que dans le Nouveau. Eh oui. Environ 120 fois dans l'Ancien, environ 140 fois dans le Nouveau. Après, ça dépend évidemment des traductions. Mais si vous voulez, dans les deux langues originales, c'est à peu près ça. Et surtout dans le Pentateuque, donc les 5 livres de Moïse, qui sont génériquement appelés la loi. En général, quand on parle de la loi, quand Jésus dit « je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes », la loi, c'est les 5 livres de Moïse, et pas seulement les codes de loi, les 10 commandements, vous comprenez. Hein? Donc, surtout dans le Pentateuque, et puis dans les psaumes. C'est là où on trouve le plus le mot « grâce » dans l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, presque chaque fois, que vous trouvez, dans le Pentateuque, pardon, dans les 5 premiers livres, presque chaque fois que vous trouvez le mot grâce, c'est dans l'expression « trouver grâce aux yeux de ». Alors, quelquefois, il s'agit d'une personne humaine, mais la grosse majorité, évidemment, trouver grâce aux yeux de Dieu. Voilà, si vous voulez, c'est le leitmotiv. Concernant la grâce de Dieu, le leitmotiv, le refrain du Pentateuque, c'est trouver grâce aux yeux de l'Éternel. Ce qui dit, et sa bonté, mais ce qui dit sa souveraineté. Il est la source de tout. Alors, après, il y a une deuxième expression que Moïse emploie, Moïse en tant qu'auteur de ces 5 livres, emploie en citant le serviteur anonyme d'Abraham qui s'en va et qui doit trouver une épouse pour Isaac. Et donc ça, c'est dans Genèse 24. Et il prie et il dit, donc Genèse 24, verset 12, « Éternel, use de grâce envers mon Seigneur Abraham ». Et il ne dit pas « use de grâce envers moi ». Ailleurs, il prie aussi que Dieu le conduise. Mais « use », c'est-à-dire, ou ça c'est traduit quelquefois « fais grâce ».« Use de grâce envers quelqu'un, Abraham, qui a trouvé grâce à tes yeux ». Donc si vous voulez, il trouve grâce aux yeux de Dieu qui est souverain. Et à partir de là, lui et les siens valorisent cette grâce et la demandent. Voilà ce que les 5 premiers livres de Moïse nous apprennent sur la grâce. Les 5 livres, c'est que elle vient de Dieu, c'est sa nature éternelle, et que dès qu'elle nous a un tant soit peu atteint, eh bien, on ne s'arrête plus de la demander. Parce que vous savez qu'on ne demande à Dieu que des choses qu'il a déjà données. Après s'ajoutent plein d'autres expressions dans ces 5 livres. L'Éternel fait grâce, il est plein de grâce, littéralement dans le psaume 103, le 111, le 112 et peut-être d'autres, il est plein de grâce. Voilà, ça c'est dans la loi. La loi a servi entre autres à apprendre au peuple de Dieu que Dieu était plein de grâce. Il donne la grâce et la gloire, ça c'est une expression célèbre, psaume 84. Et finalement, si on arrive à Zacharie, l'avant-dernier livre de l'Ancien Testament, Dieu fait une promesse incroyable. Je répandrai sur la maison de David un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Et là, quand, évidemment que les premiers auditeurs de Zacharie et les premiers lecteurs se sont dit « mais on n'a jamais percé l'Éternel ». Mais un jour, voilà, donc si vous voulez, l'Ancien Testament aboutit, l'Ancien Testament en parlant de grâce aboutit à ça, au sacrifice suprême, à la mention du sacrifice suprême, et le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu va venir sur des gens pour qu'ils se tournent vers celui qui, par et pour leur péché, a été cloué sur la croix. Voilà. Alors maintenant, le texte probablement le plus connu de toute la Bible au sujet de du moins du Nouveau Testament au sujet de la grâce, c'est Jean 1 verset 17. Alors je vais lire à la fois en suivant le 16 et le 17. 16 dit: et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. On va un peu expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Grâce pour grâce, littéralement. Merci. Et puis le verset 17. Oui, merci beaucoup. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et quand tu lis les deux à la suite, tu te dis, si tu t'arrêtes un peu, tu te dis, le deuxième explique le premier. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Ce n'est pas grâce sur grâce. Le sens n'est pas « je t'en donne encore et puis encore ». C'est grâce pour grâce. C'est-à-dire grâce pour quel motif ? En vertu de quoi ? En mérite de quoi ? Vous voyez ? Grâce pour grâce. En vérité, quand l'apôtre Jean emploie cette expression, il se réfère à une expression que l'Éternel lui-même a employée pour parler à Moïse quand il dit « je fais grâce à qui je fais grâce ». Alors, en bon citoyen républicain, etc., on va dire, oh, ça c'est arbitraire. Oui, mais de toute façon, c'est Dieu, donc on n'a pas plus à dire. Hein. On était déjà morts dans nos offenses et dans nos fautes, ennemis par nos pensées. Donc, on va commencer à vouloir rééduquer Dieu à être équitable et juste. Vous comprenez, hein? Donc, je fais grâce à qui je fais grâce. Et évidemment que l'idée n'est pas, c'est pas une idée d'arbitraire, mais ça veut dire que c'est les yeux de Dieu qui atteignent quelqu'un et qui commencent à faire grâce, et à celui-là, il ne s'arrêtera plus de faire grâce. Vous voyez? Ce n'est pas que pour se convertir que la grâce est vitale. Chaque instant, c'est par grâce qu'on vit. Tout le temps, tout est par grâce. Si je prêche aujourd'hui, c'est une grâce. C'est pas premièrement l'expérience, les années, le travail, les études. Oui, c'est pas premièrement le don. Oui, c'est premièrement que, en fait, je lis la Bible en admirateur du Seigneur et je prêche en admirateur de la vérité. Voilà. Lire la Bible, c'est de l'amour. Parce que l'auteur est là. Vous savez, j'imagine que vous ne pouvez pas l'ouvrir sans que l'auteur soit là. Alors, donc, je fais grâce sur grâce. Ça, c'est dans Exode 33. Et puis le verset 17, la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et c'est comme ça que Jean explique grâce sur grâce. Alors, malheureusement, et il faut le regretter, ce verset est trop souvent lu comme une opposition, comme si au milieu, le Saint-Esprit avait fait écrire le mot « mais ». Comprenez ? La loi a été donnée par Moïse, mais on va passer à autre chose, vous comprenez ? Et il n'y a pas de « mais », il y a juste « et ». Et c'est-à-dire, dans la loi, la grâce a commencé à être révélée, enseignée, affirmée. Et Dieu le publie encore, hein, l'Éternel qui fait grâce, lent à la colère, riche en bonté. Vous voyez ? Donc, grâce, la grâce venue en Christ est le prolongement, en vérité l'accomplissement de la grâce enseignée, dévoilée, ou commencée à être dévoilée de tout l'Ancien Testament. Voilà, donc ne le lisons pas comme la grâce s'oppose à la loi, la grâce annule la loi. Vous allez dire, oh là tu me perturbes, je commence à peine à me sortir du légalisme et déjà tu viens tout casser. Alors, si tu te sors du légalisme en t'imaginant que la loi n'était pas bonne et qu'elle est complètement abolie, eh ben, tu es sorti de rien du tout. T'es pas sorti, t'es pas libre, parce que tu n'es pas dans la vérité. C'est la vérité qui a franchi. Alors, la grâce vient de la personne de Dieu. Il est grâce. Vous savez qu'en français, on parle d'une, je sais pas, une charmante jeune fille gracieuse, la grâce. Et en français, grâce, ça veut à la fois dire faveur et charme. D'accord ? Eh bien, c'est pareil en hébreu et c'est pareil en grec. Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, les deux langues originales, c'est pareil, le mot grâce signifie à la fois, il a ce double, si vous voulez, il couvre large, il signifie à la fois pour les humains charme, beauté, et à la fois bienveillance, faveur. Et pour parler de Dieu, il signifie splendeur, c'est-à-dire l'Éternel plein de grâce, ça veut dire, eh bien, on peut lire par exemple psaume 96, verset 6, qui dit, je vais le lire sans le déformer. Il y a un moment où la mémoire baisse un peu. Oui, voilà. L'éclat et la magnificence sont devant ta face. La puissance et la splendeur dans ton sanctuaire. Imaginez ce que les disciples, d'ailleurs ils étaient complètement paralysés sur le monde de la transfiguration. Voir un peu Jésus comme il est en vrai. Et c'est marqué, son visage rayonnait comme le soleil, plus que le soleil. C'est ça. Voilà, splendeur. Splendeur. Et doux faveur. Où Dieu est tellement bon qu'il est splendide. On peut le prendre dans les deux sens, voilà. D'où et de là l'idée de gratuité, parce que ça vient de lui. Personne, si vous voulez, personne n'a supplié Dieu d'être bon, personne n'a supplié Dieu d'être puissant, d'être rayonnant, personne ne supplie Dieu de régner, il règne, vous comprenez, voilà, c'est de lui. Alors, je ne vais pas passer beaucoup de temps sur une chose qu'on appelle en comme ça couramment dans le christianisme, en théologie aussi, la grâce générale. Dieu fait pleuvoir sur les bons, sur les méchants, il fait lever son soleil sur les justes et sur les injustes. Donc Dieu a des bienfaits pour tous les humains, et à la fois matériels, physiques, mais moraux aussi, moralement. Si une maman complètement incroyante aime son enfant, eh bien ça vient de Dieu. Vous comprenez, d'accord, hein. Jésus le dit, les pécheurs aiment aussi ceux qui les aiment. Si un pécheur peut aimer, ça vient d'où? Alors, même les mafieux respectent maman, c'est tout, ils respectent rien ni personne d'autre, mais maman, oui. Voilà. Alors, et en fait, tous ces bienfaits, Paul en parle aux Athéniens. Il dit, il vous envoie les saisons et tout, la nourriture, la joie dans vos cœurs. Tous ces bienfaits de Dieu sont mentionnés à travers toute la Bible, mais jamais avec le mot grâce. Et moi-même, j'ai beaucoup employé l'expression grâce générale, mais finalement, elle est un peu impropre. Alors pourquoi ? Bien sûr que dans l'absolu, ça vient de la grâce de Dieu, parce qu'il y a une gratuité de Dieu dans ses bontés envers ceux qui lui sont rebelles. Mais l'Écriture, dont l'auteur est l'Esprit de Dieu et de Jésus, l'Écriture réserve le mot grâce à une bonté plus spécifique, supérieure. Voilà. Et donc, si vous voulez, ce n'est pas par la grâce générale que Dieu accorde la vie éternelle. Et donc, j'imagine que vous connaissez tous par cœur, et cette vie éternelle est en son Fils. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est en son Fils. 1 Jean 5, verset 11, et puis verset 12, « Celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Donc là, il y a comme un focus, comme quand tu règles un projecteur ou un micro de Omni, tu le mets en unidirectionnel, voilà, bien pointu là. Et voilà. Voilà, le mot grâce, il, à travers déjà l'Ancien Testament, parce qu'il parle du Messie, il précise comme ça. D'accord ? Donc en fait, le mot grâce apparaît quand il s'agit d'appel et de salut. Quand Dieu appelle quelqu'un à croire à lui, c'est là où le mot grâce apparaît. Quand il s'agit d'appel, de salut, de communion, etc. Voilà. Alors, pardon. C'est l'heure là-bas ? Oui. Et en fait, j'y vois mal. 17h46. Oula. Voilà. Et, pardon ? Un peu. Déjà dans l'Ancien Testament, il y a une gratuité. C'est une caricature de dire avant tout était à mériter et maintenant tout est gratuit. Il y a une gratuité énorme dans l'Ancien Testament, énorme. Le pardon est accordé en vertu d'une décision unilatérale de Dieu. La décision de transférer les péchés de la personne ou du peuple sur un animal innocent. Et ça, c'est une décision unilatérale. Ce n'est pas Moïse ou quelqu'un qui a dit « S'il te plaît, trouve-nous un substitut, quelqu'un qui prendrait notre place et qui paierait pour nous. » Ça, c'est Dieu qui le fait. Et vous savez qu'il l'a fait pendant des siècles. Le sang apparaît dès le début. Au début, c'est sans parole quand il leur fait des vêtements de peau à Adam et Ève. Dans le sacrifice d'Abel, ce n'est pas des légumes, c'est des animaux qui sont tués. Enfin, avec Noé aussi. Donc, le sang, à travers tout l'Ancien Testament. Et pourtant, Dieu sait que le sang des boucs et des taureaux ne purifiera pas leur conscience. Mais parce qu'ils auront obéi en amenant l'animal, et quelquefois même en lui imposant les mains, en signe, Dieu avait dit à Moïse, de transfert du péché. Il dit, et vos péchés iront sur l'animal. De là l'expression, le bouc émissaire, parce qu'après on l'envoie dans le désert. Eh bien, il est accordé, le pardon est accordé, parce que Dieu fait ça et fait faire ça. C'est impressionnant. Et Dieu sait bien que quand il pardonne là, il anticipe sur la seule vraie expiation, celle qu'on a chantée depuis le début, Christ crucifié pour nous. Et il leur fait faire ça. Et c'est gratuit. Il y a une condition, amener l'animal. Quelques règles. Hayet ne choisit pas le plus boiteux, le plus tordu, parce que ça veut dire que tu te moques de moi. Vous comprenez, enfin, ce n'est pas ce que dit la loi. La loi dit de le prendre sans défaut. Elle ne le dit pas avec cette espèce d'humour à deux sous qui vient de m'échapper. Donc, il y a une certaine condition, mais qui est minime en fait, par rapport à la gratuité incroyable. Donc Dieu a toujours, Dieu a toujours mis une espèce de condition de volontariat Oui, je veux venir vers l'Éternel, je veux être pardonné, je veux, et aujourd'hui, oui, je veux écouter, je veux me repentir, je veux croire à la vertu du sang de Christ. Donc c'est une condition pour le salut, et même après pour la marche. Et pourtant, cette condition n'est comme une minime annexe à quelque chose qui est d'une gratuité inconcevable. Parce qu'il ne faut pas oublier que normalement, ce que Dieu dit au départ, c'est « j'effacerai l'homme de la surface du sol ». Et puis il y a eu le déluge, et vous le savez, le déluge a été une première fin du monde. Et Dieu en fera une autre. Il le dit clairement. Parce que, je veux dire, on l'a tous entendu et répété, le prix que Jésus a payé à la croix souligne au minima la gravité du péché. S'il fallait un tel prix, un sang innocent et pur versé pour sauver un homme impur, voilà. Alors, c'est là que la gratuité apparaît. Parce qu'on est perdu, on est coupé de Dieu. Avant. Alors, vous allez me dire, c'était déjà gratuit. La condition était minime. En quoi la nouvelle alliance est meilleure ? En quoi la grâce et la vérité, l'expression est aussi de... Il faut que je vérifie ça, que je ne dise pas n'importe quoi. L'expression grâce et vérité, là de nouveau l'apôtre Jean se réfère à... Oh, je suis en train de le perdre. Oui, c'est ça, c'est Moïse. C'est Moïse. En citant, c'est dans la prière du serviteur anonyme. Passons. Donc, la grâce et la vérité sont venues. Il y a une meilleure alliance, une meilleure espérance, de meilleures promesses. C'est un mot qui revient plusieurs fois dans Hébreux. Meilleur, meilleur, meilleur. En aucun cas, ça veut dire qu'avant, c'était mauvais. Meilleur, ça veut dire que c'était bon, mais que c'est plus bon. D'accord, hein? Voilà. Alors... Elle est meilleure premièrement en ce qu'elle est la réalité dont l'ancienne était l'ombre. Vous connaissez cette expression, hein, c'était l'ombre des choses à venir. Et c'est quoi une ombre ? Littéralement, le mot réalité, le mot traduit par réalité, c'est corps. Hein, mais la réalité est en Christ, le corps est en Christ. C'est-à-dire, il y a un corps, celui-là. Si on est en fin d'après-midi et que le soleil est là, mon ombre, elle va aller loin, loin, d'accord ? Et si quelqu'un, ça arrive, je vais le faire autrement. Vous marchez dans la rue, le trottoir n'est pas très large, le soleil est derrière vous, plutôt bas, et à un moment, vous voyez pointer une ombre là. Vous dites, ah, il y a quelqu'un qui arrive derrière, et même si vous n'avez rien entendu. Eh bien, tous ces sacrifices d'animaux et toutes les lois, les règles d'accès à Dieu et tout le reste, y compris les lois morales, tout, tout l'Ancien Testament, en fait, et spécifiquement les cinq livres de Moïse, étaient comme l'ombre de Christ qui arrive. Il arrive. Et alors, ça a duré longtemps, l'ombre. Elle était longue, celle-là. C'est pas qu'elle faisait 15 mètres ou je ne sais pas combien. Elle a fait 1500 ans entre Moïse et Jésus, ou 1300, ça dépend après des chronologies qu'on retient, mais elle a fait nettement plus d'un millénaire. Donc ça fait une longue ombre. Mais s'il y a une ombre, c'est qu'il y a, il y a un corps, une personne ou un poteau ou un arbre. C'était l'ombre des choses à venir. Et donc, évidemment que quand le corps arrive, c'est meilleur que l'ombre. Mais l'ombre était l'ombre du corps. C'est pas quelqu'un qui est venu, vous comprenez, c'est pas quelqu'un qui est venu peindre le trottoir en gris foncé pour vous faire croire qu'un autre piéton s'approche par derrière. L'ombre est une réalité aussi, mais c'est une petite réalité d'une grande réalité. Voilà. Donc, et puis elle est meilleure parce qu'elle purifie notre conscience, Hébreux 9, ce que la loi ne faisait pas. La loi mettait l'Israélite en règle avec Dieu, mais elle ne pouvait pas le rendre pur quant à sa conscience. Voilà. Donc Dieu anticipait sur les bénéfices de la croix. C'est capital à comprendre que la croix de Jésus n'est pas active qu'au moment et après elle, mais j'allais dire rétroactive. Mais c'est personne n'est entré ni ne rentrera dans la maison du Père sinon par la croix de Jésus. Alors Jésus il dit des choses comme Abraham s'est réjoui de voir mon jour. Il l'a vu, il s'est réjoui. Moïse a écrit de moi, etc. Et les disciples voient sur le mont de la Transfiguration, ils voient Moïse et Élie, qui sont clairement dans le paradis. Et ils le sont parce que Christ a été la seule vraie victime expiatoire, la seule vraie expiation, propitiation, c'est-à-dire il y a la double idée de d'ôter la faute en subissant son châtiment et de rendre Dieu propice. Alors non pas qu'il ne l'était pas, mais il y a un mystère, hein, on ne comprendra jamais tout à fait, hein, on ne comprendra jamais tout à fait, enfin dans l'éternité je ne sais pas, mais en tout cas pour le moment. Voilà, donc la grâce de Dieu culmine dans le don de son Fils. Et c'est pour ça que Jésus répète tellement, c'est pas qu'il le dit souvent, mais c'est implicite. C'est souvent implicite, je ne suis pas venu abolir, je suis venu accomplir. Et c'est implicite dans chaque fois où il se réfère à l'Écriture. Et vous savez que Jésus a, avec les Écritures, un rapport incroyable. Il y a un bon article sur un blog... J'ai commencé un blog d'enseignement biblique et il y a un article qui s'appelle « Quel rapport Jésus avait-il avec les Écritures ?» Et ça peut être très utile pour... voilà. Alors évidemment, quand Jésus est venu, l'Ancien Testament ne se lit pas tout à fait pareil qu'avant. Vous comprenez ? Et l'Ancien Testament lui-même dit on se souviendra plus de l'Arche de l'Alliance. Et pourtant, on ne rigolait pas. Hein. Celui qui la touche et qui n'a pas le droit, il tombe mort. On ne se souviendra plus de l'arche et on n'en fera pas d'autres. Et pourquoi ? Parce que le Fils est là. C'est lui. Voilà. Donc, on lit l'Ancien Testament différemment parce qu'on le lit en tant que disciple de Christ. Et de toute façon, Pierre dit que c'est l'Esprit de Christ qui parlait dans les prophètes. Donc il est aussi l'auteur de l'Ancien Testament. Donc ça demeure la parole de Dieu pour nous. Ok, donc la grâce de Dieu culmine dans le don de son Fils. Voilà. La grâce existe au ciel en la personne de l'Éternel. Au long des millénaires, elle est manifestée par lui dans des mesures très variables. Des fois plus là, moins là, etc. Donc spécifiquement en Israël par exemple. Parce que Dieu veut éduquer à l'existence d'une élection. Et Israël est la préfigure de l'élection du Messie. C'est lui l'élu au singulier. La Bible parle des élus, mais l'élu, il y a un élu. Donc, elle a été manifestée. Beaucoup de grâce. On trouve énormément de grâce dans l'Ancien Testament. Mais, quand Dieu envoie son Fils, mais la grâce, elle vient sur terre. C'est pas seulement qu'elle est en Dieu au ciel et qu'elle se manifeste, c'est qu'elle vient sur terre. Elle vient sur terre. Et c'est pour ça que Jean écrit la grâce et la vérité. Vérité, là, beaucoup au sens de fidélité de Dieu, sont venus. Et les versets précédents que je n'ai pas lus dans Jean 1, c'est « Et elle a habité parmi nous. » Elle a habité. Et c'est la même idée que quand Jésus dit « Le royaume est proche. » Et pourquoi il est proche ? Parce que le roi est descendu. Oui, c'est ça. Pourquoi il est proche ? Parce que le roi est descendu. Dieu était déjà roi. Dieu, à 0 milliseconde de jamais, il a été par roi. C'est pas bien français, mais au moins, vous comprenez. Hein, il était déjà roi, mais à un moment, le roi vient sur terre. Et là, on trouve, il fait les œuvres que le Père faisait déjà dans l'Ancien Testament. Dieu a fait des miracles incroyables dans l'Ancien Testament. Mais là, il les fait dans une... C'est multiplié. Et puis, beaucoup de choses étaient déjà gratuites. Mais là, il y a une gratuité. Alors, un exemple qui est connu, mais probablement qu'on ne souligne pas suffisamment, c'est... 18h, je crois. C'est que dans... Dieu guérissait dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance. Et pour guérir, il demandait au peuple de revenir à lui. Et là, je te guérirai. Et Jésus, il guérit des gens, mais alors des foules, c'est impressionnant, hein, parce qu'à beaucoup d'endroits, c'est marqué qu'il guérissait tout le monde. À d'autres endroits, un seul, mais quand même. Et pas un mot, quand il guérit, pas un mot sur l'origine de la maladie, pas un mot sur le péché, pas un mot sur le repentir. Or, l'exemple frappant, c'est quand, vous savez, il y en a quatre qui défendent le toit, là. Ils le descendent, et bon, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Alors, tout de suite, qui peut pardonner les péchés sinon Dieu seul? Ben oui, ils ont raison. Sinon Dieu seul. Mais Jésus est Dieu. Mais si vous voulez, le gratuit est devenu encore plus gratuit. Parce que cet homme-là, on ne lui parle pas de ses péchés, il est guéri. Après, rapidement ou plus tard, avec les apôtres et tout, il a entendu le message du salut, de la croix, de la résurrection, du Fils de Dieu, etc. Et après, il faut qu'il croie. Voilà. Donc, en donnant son Fils, Dieu amplifie ce qu'il faisait déjà. En différentes mesures, il le faisait en différentes mesures, il le rend plus proche, et il le rend plus notoirement gratuit. Voilà. Donc, ce mot gratuit, il faut le conserver, puisque la grâce est la faveur non méritée de Dieu, la faveur gratuite. Vous allez dire, bon, tu insistes beaucoup sur gratuit. Ben oui, parce que, beaucoup d'entre nous, peut-être pas tous, mais en tout cas moi, oui, on a été élevés avec l'idée que si on arrive à bien faire les choses, Dieu nous aimera mieux. Mais il nous aime d'abord. Voilà. Donc, vivre sous la grâce, c'est recevoir le pardon et avoir la paix avec Dieu. Tu nous as fait 100 km pour dire ça. On savait déjà. Oui, je vous dis, c'est simple, la grâce. Mais après, la paix avec Dieu. Alors, vivre sous la grâce, c'est quand je ne compte sur rien d'autre que le sang de Christ pour avoir la paix avec Dieu. Si je me suis mis des règles, bon, tous les matins, je vais me lever à telle heure, je vais prier, je vais lire la Bible un quart d'heure. C'est très bien. Et loin de moi de vous dire de ne pas le faire. Mais si cette règle, ce projet, cette décision, vous en faites la condition de votre paix avec Dieu, là, ça va plus. C'est ça le légalisme. C'est-à-dire, j'ai pris une loi que Dieu n'a même pas dite, et quand j'arrive à la suivre, j'ai la paix avec Dieu. Peut-être un peu comme le personnage dont Jésus parle qui vient « Oh Dieu, je te loue, je ne suis pas comme lui. » Bon, je ne sais pas, peu importe. Mais même, admettons, sans aucun orgueil, admettons zéro orgueil, Christ n'a pas été crucifié pour que j'aie la paix seulement. La paix avec Dieu, ce n'est pas tellement ma paix, vous comprenez, que je suis content de moi aujourd'hui. Ce n'est pas ça, c'est la paix avec Dieu. Il n'a pas été crucifié pour que j'ai seulement la paix avec Dieu quand j'ai réussi à bien faire. Et pourtant, ne veut-il pas que je fasse bien? Mais oui, plus que moi. Bien sûr qu'il veut que je fasse bien. C'est même écrit dans Romains 8 que le Saint-Esprit nous est donné pour que la vie juste que la loi demande et enseigne soit accomplie en nous. C'est-à-dire pour que ça arrive. Que j'aime Dieu de tout mon cœur, que j'aime mon prochain, que je sois un bon mari qui honore sa femme, etc. c'est capital. Quelquefois, on a du mal à croire au sujet de la conscience et de la paix. Il me semble que je dois insister un petit peu. Vous savez que la croix de Jésus, ça a été une horreur. Dans tous les sens du mot. D'abord spirituellement, parce que toutes les poubelles du monde se sont retrouvées sur lui, sur son corps et son âme, esprit. Voilà. Alors que c'est le seul humain, parce qu'il s'est fait vraiment humain, ce n'était pas une apparence, il s'est fait le seul humain qui était complètement pur. Donc ça, il faut le faire quand même, vous imaginez, avec la belle robe de mariée et tout, puis il faut aller faire la vidange de la voiture, et même bien pire que ça, parce que là on parle de choses salissantes, mais si vous regardez un peu les poubelles des hôpitaux, ou l'odeur qu'une maladie grave peut dégager, vous voyez, la corruption, et le péché est corruption, parce que le péché est manquer Dieu. Et Dieu étant la vie, la beauté, faveur, quand on le manque, on se corrompt, on pourrit en fait. Voilà. Et donc Jésus prend tout le péché est endossé. Donc c'est une horreur. Et c'est pour ça qu'il est si angoissé au jardin de Gethsémané. Peut-être certains vous ont demandé, monsieur le fils de Dieu, il sait ce qu'il fait, il est venu exprès pour ça. Pourquoi il est angoissé? Voilà. Et puis, mais une horreur physiquement aussi, la croix. Alors je suis désolé de le redire, mais contrairement aux peintures et aux sculptures, Jésus a été crucifié nu. Voilà. Flagellé avant, enfin bon... C'est marqué que les soldats crachaient sur lui aussi en le frappant, tout ça. Voilà, une horreur. Eh bien, et le péché, c'est une horreur. L'horreur de la croix répond à l'horreur du péché. Si je compte effacer l'horreur du péché par autre chose, mais quelle présomption! Quelle présomption! Par quoi je vais l'effacer? Je vais dire, bon, maintenant je vais obéir à Dieu. Ben, Dieu aime qu'on lui obéisse, pas de souci. Mais ça efface pas. Vous voyez, l'horreur de la croix est la seule chose qui efface l'horreur du péché. En vérité, c'est le sang de Christ qui l'efface. Comprenez, mais c'est dedans. C'est horrible qu'il ait versé son sang. Voilà. Mais pourquoi j'insiste là-dessus? Pour nos consciences, pour que dans ma conscience, quand je me trouve nul, minable, en dessous de tout, que mon pauvre, si mes frères et sœurs savaient ça de moi, vous voyez, et c'est pas forcément pour des choses très horribles, très grossières, parce que ceux qui ont une conscience affinée, ils peuvent se sentir très mal avec une petite, toute petite infidélité, une petite chose, et d'autres dont la conscience est, mon pauvre, ils font des horreurs sans nom et en plus ils sont contents d'eux. Donc vous comprenez, mais je parle à nous chrétiens, qu'est-ce qui purifie ma conscience? C'est important, c'est important. Voilà. Et donc après il dit, voilà, il a jeté nos péchés au fond de la mer, il ne s'en souvient plus, etc. Il y a des expressions très fortes, très 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 fortes. Voilà, et puis même il nous justifie, c'est-à-dire qu'il nous, il nous attribue, il nous impute, au sens en français littéraire, il compte comme si elle était à nous, la justice de Christ, c'est-à-dire toute la vie et le comportement juste de Christ. Tout ce que Jésus a été et fait, de juste devant Dieu, d'obéissance à Dieu, ça c'est compté comme étant nôtre. Et quand on dit les justes lèvent, les justes crient, les justes bénissent l'Éternel, mais c'est cela. Et bien sûr, tout ça, c'est pour l'adoption, pour nous adopter. Voilà, alors, 18h08, je crois. Donc probablement, je ne vais pas vous parler de la loi. Ça ne fait rien. Je crois que c'est bien comme ça. Si vous le voulez, vous l'aurez dans un article dans une, deux semaines. Peut-être deux. Oui, un dernier mot. Le pardon de Dieu... La grâce de Dieu une fois que je l'ai reçu concernant les péchés passés et que j'ai la paix avec Dieu, une fois que je l'ai reçu, je continue à en avoir besoin. Je continue à en avoir besoin. C'est à des chrétiens que l'apôtre Jean dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Nous sommes sauvés par grâce, évidemment. Quel chrétien évangélique va contester ça, hein? C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ça, c'est la condition, vous voyez, la condition, hein, qui est annexée. Mais parce que Dieu veut des volontaires. Vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Ce n'est point par vos œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc, on est sauvés par la grâce. Alors, une fois sauvé par la grâce, est-ce que je vais marcher autrement que par la grâce? Est-ce que je vais être un fils, un père, un époux, un employé, un patron, un artisan, un retraité, et vivre, et marcher, et me comporter, et parler, et prier, et servir autrement que par la grâce? Mais non. Comme vous avez reçu le Christ, ainsi marcher en lui, dans Colossiens, on a toujours besoin de la grâce. Alors, pour conclure, parce qu'il faut quand même, hein, malgré l'autorisation de déborder, vous savez que la Bible entière montre beaucoup de prières, bon, des gens qui prient, mais rapportent aussi ce qu'ils disent quand ils prient et ce qu'ils demandent. Alors, beaucoup dans l'Ancien Testament, et contrairement à ce qu'on pense, beaucoup dans le Nouveau aussi. Les apôtres mettent... voilà, par exemple, Paul écrit, voici ce que je demande dans mes prières, deux points, et puis vous, ok. Alors, est-ce que vous savez quelle est la chose le plus demandée dans le Nouveau Testament, dans les sujets de prière? Eh bien, on va le dire, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Toutes les épîtres, sauf Jacques, commencent ou finissent, certaines, et où, par ça. Donc un bon nombre, c'est les deux, commencer et finir. Et vous savez bien que ce n'est pas juste une formule, c'est le Saint-Esprit qui fait écrire, que ce soit Paul, Pierre, Jean, Jude, etc. C'est ce qui est le plus demandé. Par qui? Par des gens qui y croient pleinement. Vous comprenez, ce n'est pas des gens qui croient que Dieu n'a pas tout à fait fait grâce, qu'il en manque un peu. Et alors, ils prient que la grâce vous soit donnée. Vous voyez, c'est Paul, il ne se dit pas à Éphèse, peu cher, ils n'ont pas vraiment compris la grâce, alors on va prier que la grâce leur soit donnée. Non! Là où elle est donnée, nous continuons à en avoir infiniment besoin. Parce que c'est Dieu. Et on ne peut pas vivre sinon par lui. Comme il dit lui-même, si je retire mon souffle, toute chair périt. Voilà. Et donc, vivre sous la grâce, c'est tout ça. Amen. C'est un privilège, Seigneur, de prier pour cette église. Ta grâce est cru, retenu, prêché, valorisé, et où encore elle est espérée et demandée. Je te prie pour l'ensemble de l'Église, Seigneur, nous te prions pour l'ensemble de l'Église, pour que, comme Pierre l'a écrit, elle puisse croître dans la grâce. S'en nourrir de plus en plus. Ne pas attendre les choses d'ailleurs que de ta grâce, Seigneur. Je te prie que dans cette église, ce soit une évidence, une force, un point fort, que quiconque vient, non chrétien, ou déjà chrétien, je te prie qu'il lui soit facile de recevoir ta grâce, de s'accrocher à elle, de te louer pour elle. Et je te prie que pour chaque individu de l'Assemblée, que ce soit la fin d'une époque où un certain légalisme empêchait de compter sur ta seule grâce. Je te prie que la volonté de t'obéir soit le résultat de ta grâce déversée. Oh, amen. Que ta grâce soit multipliée, comme il est écrit, multipliée à cette église. Amen.